que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou, on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 € pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, il est 15h. Le flash, les dernières informations avec Margot Siffer. Bonjour Margot.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Nouvelle carte abattue hier soir par Sébastien Lecornu sur le budget. Augmentation de 50 € en moyenne de la prime d'activité, aucune hausse de la fiscalité sur les ménages ou encore revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Objectif, convaincre les socialistes et éviter la censure, un budget qui aggravera, d'après Marine Le Pen, le déficit.
Quelles sont les déclarations qu'il a fait hier ? L'aggravation encore du déficit ? C'est-à-dire que par rapport au projet de PLF qui était déjà un drame, il aggrave encore les dépenses. Et pas une économie. Pas une économie sur l'immigration, pas une économie sur l'Union européenne, pas une économie sur le train de vie de l'État. Rien sur la fraude. Le texte sur la fraude a disparu. Donc, je suis navrée, mais enfin, par respect pour nos consciences et nos électeurs, eh bien, nous nous opposons à un budget qui nous apparaît affreusement néfaste pour le pays. C'est simple.
Marine Le Pen, qui se dit par ailleurs engagée dans un combat pour son innocence, elle est jugée en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés FN. Quand on fait appel par définition, on est optimiste, a-t-elle poursuivi. Les municipales, c'est dans 2 mois. Le compte à rebours est lancé. On dénombre 83 députés sur un total de 575 têtes de liste. Plus d'un parlementaire sur 7 est donc sur la ligne de départ. Et en attendant, l'adjoint au maire de Villers-Saint-Paul dans l'Oise, à nouveau la cible d'une attaque organisée. Un cocktail Molotov lancé sur sa voiture stationnée face à son domicile. Une enquête a été ouverte. 3 personnes mises en examen pour vol de câble en janvier dernier dans les Yvelines et le Val d'Oise. Plus de 4,5 millions d'euros d'avoirs criminels également saisis, dont un château dans l'Oise. Leur jugement est prévu le 24 juin. Les médecins ne sont plus en grève. Décision des syndicats qui ont obtenu des engagements du gouvernement sur leurs revendications. Un exemple, l'assurance maladie ne pourra pas imposer à un praticien des objectifs de réduction tarifaire. Les manifestants iraniens qualifiés ce samedi de séditieux par le guide suprême. Il indique même vouloir leur briser le dos. Il accuse Donald Trump d'être coupable des victimes. La violente répression en Iran a déjà fait en à peu près 3 semaines des milliers de morts. Des drapeaux groenlandais et danois dans les rues de Copenhague. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés pour dénoncer les ambitions territoriales de Donald Trump. Il continue d'afficher son intention de s'emparer du Groenland sous l'autorité de la couronne danoise. Retour en France où les obsèques d'Alain Orsoni se sont déroulées dans le calme et le recueillement. C'était ce matin à Ajaccio en présence de 200 personnes. Il a été tué lundi dernier lors de l'enterrement de sa mère. Une enquête a été ouverte. Et puis on termine avec le Dakar 2026 qui s'est achevé. 6e sacre du Qatari Nasser Al Attiyah, une course qui se dispute depuis le début du mois dans l'immensité désertique de l'Arabie Saoudite. 15h03 sur Europe 1 tout de suite, et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres.
Merci Margot Siffer, rendez-vous dans une heure pour un prochain point sur l'actualité.
Marie-Estelle Dupont,
15h-16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Les meilleurs moments de « Et si on en parlait » avec vous, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle.
Bonjour Romain.
Tous les samedis sur Europe 1, entre 15h et 16h. On va commencer par un extrait de l'émission d'hier, vendredi, un sujet inspirant.
Oui, on a décidé de parler des vocations professionnelles avec notre invitée Sabine Van Vlanderen Badinter, qui travaille comme déléguée à la Fondation des Vocations et qui aide à financer des projets de toutes sortes chez les jeunes. Alors, Sabine Van Vlanderen Badinter, vous êtes déléguée générale de la Fondation des Vocations. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs d'Europe 1 quelle est la vocation justement de cette fondation, et puis surtout le contexte magnifique et tragique à la fois dans lequel elle est née.
La fondation est née. Alors, vous l'avez dit, c'est la Fondation de la Vocation Marcel Blessane-Blanchet, du nom de son fondateur, qui est le fondateur par ailleurs de Publicis aussi. il est né vraiment dans son histoire personnelle. Il avait donc fondé Publicis, qu'il a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là, en rejoignant l'Angleterre, qu'il est fait prisonnier dans les Pyrénées et où il reste pendant quelques mois. Et lui, qui en fait avait été en rupture familiale, ses parents et ses oncles vendaient des meubles. Il était allé voir son père en lui disant qu'il allait prendre un autre chemin et qu'il était appelé, lui, par la réclame et la publicité, ce qui avait créé, on va dire, une petite crise au sein de la famille. Mais il en avait tiré une telle joie de vivre qu'il s'est dit, au moment où il était prisonnier, si je sors vivant de ce moment vraiment compliqué et tragique de ma vie, je ferai un jour quelque chose pour un jeune. Donc quand il revient, il reprend les rênes de l'entreprise qu'il avait dû laisser. Et en 59, il décide de réunir un jury de personnalités vraiment d'exception en leur disant, voilà, je vais avoir besoin de vous, non pas pour de l'argent dans un premier temps, ça vient après avec de nombreux mécènes qui se sont associés à l'aventure, mais pour venir m'aider à sélectionner et à donner leur chance à des jeunes qui ont une vocation profondément ancrée, quel que soit le domaine d'activité. Je rappelle que nous soutenons toutes les vocations hors politique et religieuse, avec un principe fondamental qui est de ne pas mettre d'hiérarchie entre les métiers. Donc les métiers manuels, scientifiques et autres se valent tous. Et voilà, on va les accompagner de deux manières, par un prix d'abord doté financièrement pour leur permettre de franchir une étape vraiment critique face à laquelle ils sont, et puis ensuite pour créer, et c'était je pense assez novateur à l'époque, l'idée d'un réseau d'entraide. C'est-à-dire que la vocation, elle a besoin aussi d'être soutenue, d'être appréciée, regardée et accompagnée. Mmh. Et pour ça, quand il y a un réseau de personnes qui se constituent autour de vous et qui vous encouragent année après année et qui vous aide à franchir des étapes dans votre vie professionnelle, c'est vraiment un atout extrêmement précieux, et c'est ce qui s'est attelé à faire.
En fait, il y avait des corporations autrefois, et quelque part vous recréez ce maillage.
Exactement.
Au sein d'un même corps de métier, voilà, avec des aînés qui transmettent aussi peut-être des clés, des aînés qui transmettent,
et puis aujourd'hui des membres du jury, des mécènes, etc., et des amis de la fondation qui constituent en fait un vivier de personnes qui sont des accélérateurs de parcours, qui vont pouvoir aider et accompagner.
Offrir des expériences professionnelles, par exemple.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être trouver des stages, trouver du travail, donner des conseils, et puis être entendu aussi. Je pense que quand on a une vocation, on peut, selon, vous le disiez tout à l'heure, les jeunes, en fait, quand vous demandez à un enfant quel métier as-tu envie d'exercer, en général, il a une réponse très spontanée. Et plus le temps passe, plus la situation se complique, parce que la vie se greffe à ça, l'environnement social, l'environnement culturel, et qui vient petit à petit parfois étouffer,
oui,
ses vocations.
Projeter des choses.
Exactement. Et donc, en fait, nous, notre souhait permanent, c'est de faire en sorte que ces vocations naissantes, parfois fragiles, ne s'éteignent pas. Parce qu'on est persuadé que quelqu'un qui a reçu ou vit cet appel un peu irrésistible dont il ne peut pas se détourner, c'est une richesse absolument précieuse pour une société, et ce sont des jeunes qui ensuite ont des vies professionnelles très satisfaisantes, réjouissantes, et qui, comme le disait Marcel, exerçaient leur métier dans la joie de vivre. Mmh. Et c'est ça en fait qu'on va chercher. On espère ne pas se priver de tous ces talents qui ne comptent pas les heures, qui sont extrêmement motivés et passionnés, et donc des vrais vecteurs, on va dire, de sens aussi pour les autres.
Oui.
Et donc des figures d'inspiration pour beaucoup d'autres derrière.
Oui, l'idée, c'est si ce rêve est à l'intérieur de toi, c'est que tu es le seul à pouvoir le réaliser.
Exactement.
Donc écoute-le.
Exactement.
Mais je crois que c'est très important ce que vous dites sur l'écoute, c'est-à-dire que quand on a une vocation, ça veut dire que on a une sorte de désir, de vision qui s'impose. Et à 15 ans, à 16 ans, il est extrêmement difficile dans certaines familles où les projections parentales ou les projections du milieu social peuvent être très fortes, de faire comprendre que ce désir est légitime.
Absolument.
Parce qu'on n'a pas les billes, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'expérience pour prouver que, on n'a rien en fait, on est pauvre à 15 ans. On a plein d'envies et on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas armé pour
contre-argumenter avoir un sentiment de solitude, en fait.
Avec papa qui veut que vous fassiez polytechnique, avec maman qui dit non, mais c'est pas une profession pour les femmes. Enfin, voilà. Donc je crois que c'est très important d'écouter un jeune qui a une vocation parce que c'est aussi le soutenir dans un sentiment qu'il peut avoir d'illégitimité. Parce que la peur de l'échec, elle est d'autant plus grande que vous sortez du chemin qu'on a tracé pour vous. C'est-à-dire quand on vous dit le fils aîné, il est médecin, donc tu feras médecine. Déjà, on a peur de rater. Mais si en plus on dit, non, je vais pas faire médecine parce que moi, je veux être photographe. On se dit, si je me plante, j'aurai vraiment tous les torts puisque j'aurai transgressé la projection familiale. Et en plus, je n'aurais pas prouvé que j'avais raison. Donc je pense qu'ils ont vraiment besoin d'écoute, les jeunes qui ont, même pour formaliser aujourd'hui leur vocation. Parce que parfois ils l'ont, mais ils n'arrivent pas à la mettre en mots. Et je pense que c'est très important cette écoute et le fait qu'on prenne au sérieux que leur potentiel à eux, leur valeur ajoutée à eux, leur personnalité fait que ce serait du gâchis de faire une école de commerce. Parce qu'en fait, c'est là-dedans ils vont être moyens, alors que s'ils suivent leur voie VOIX et VOIE intérieure, ils vont être probablement les meilleurs dans ce domaine parce qu'ils seront animés par l'amour de ce qu'ils font.
Exactement, c'est le cas de beaucoup de lauréats d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que les vocations peuvent se révéler tardivement. Or, j'ai l'impression que nous à la Fondation, on est parfois un révélateur de vocation. C'est-à-dire que certains, en fait, en remplissant leur dossier, se rendent compte finalement que tout ce qu'ils ont accompli depuis 10 ou 15 ans, c'est le fruit en fait d'une vocation en construction. Et qu'elle emporte le nom. Mais eux ne mettent pas forcément ce nom là-dessus.
Ils n'en avaient pas conscience.
Ils n'en avaient pas pleinement conscience. Mmh. Et ils viennent nous voir en disant, en fait, on a regardé ce qu'on avait produit jusqu'à maintenant. Les parcours semés d'embûches, les obstacles qui ont été franchis les uns après les autres, sans jamais renoncer. Et ensuite, ce moment où la vocation est reconnue, par des personnalités, on va dire, reconnues dans leur domaine, etc., ça leur donne évidemment cette force et cette légitimité dont vous parliez, qui leur donne des ailes. Et on voit une réelle transformation, en fait, quand ça, c'est clairement acté, apprécié et reconnu. Et
oui, parce qu'ils se sentent à leur place.
D'un seul coup, il y a un élan extraordinaire. Absolument, ils se sentent à leur place. Et ils se sentent non seulement à leur place, mais en plus investi de la confiance qui leur est accordée. Et c'est très puissant, en fait, de voir ça. Et parce que,
oui, donc vous leur dites, je te prends au sérieux, ce que tu veux faire est important, et je vais t'aider à en trouver les moyens.
Exact. Exact.
Donc vous construisez de la confiance.
Oui, je pense que le facteur de confiance est déterminant dans le processus.
Oui, c'est quand même plus sympa de se projeter dans sa vie professionnelle avec un peu de confiance que uniquement avec de la peur. Et ils sont quand même biberonnés à la peur, les jeunes d'aujourd'hui.
Oui,
la peur, puis l'incertitude économique, etc.
Exactement,
etc.
Il y a tous ces facteurs, évidemment, qui viennent compliquer les choix aussi. Il y a un phénomène d'autocensure, je pense, chez les jeunes, qui est assez puissant, selon les contextes, justement, culturels, socio-économiques, et d'idées préconçues sur certains métiers, parce qu'on parle parfois, par exemple, des jeunes de banlieue, qui auraient plus de difficultés d'accéder à certains métiers. C'est une réalité, mais l'inverse aussi, le politique technicien qui n'a pas envie de cette voie-là. Nous, on a par exemple un lauréat qui a fait polytechnique pour faire plaisir à ses parents, mais dont le rêve absolu était d'être berger. Alors, il a fait polytechnique, il a dit voilà, c'est fait.
Il a coché la case.
Il a coché la case, et aujourd'hui, il est berger.
Et
c'est un lauréat qui, quand vous l'appelez...
Il aurait été malheureux dans un ministère. Hein.
Mais je pense, et il est très, très heureux aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment être à sa place, en fait.
Oui.
Trouver sa place.
Les meilleurs moments de Ici, on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Ça revient dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific. Allez à l'essentiel.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise, vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté, mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous ! Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui, en plus en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr.
Mieux que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. La TV Samsung QLED 55 pouces 140 cm 4K est à 449,99€ au lieu de 549,99€. 60 euros d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Soldes du 7 janvier au 3 février.
MDA. Électroménager, literie, cuisine. Des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Marie-Estelle Dupont.
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Les meilleurs moments de « Et si on en parlait » avec vous, Marie-Estelle Dupont. Cette semaine, on a parlé des relations entre les hommes et les femmes et vous aviez invité le psychologue Maxence Carsanin.
Tout à fait, notamment pour s'interroger sur ces discours très radicaux, soit féminisme radical, soit masculinisme. Qu'est-ce qu'au fond, ils révèlent de la peur que nous avons de l'autre sexe ?
Bonjour Maxence Carsanin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marie-Estelle, vous avez l'air de dire que l'égalitarisme a été une impasse pour les relations hommes-femmes. Est-ce que vous pourriez développer ?
C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu une première vague de féminisme qui a été évidemment très importante et qu'il était heureux de sortir d'une forme d'assujettissement de la femme à l'homme, bien sûr. Et on va pas insulter nos grands-mères qui ont parfois subi des choses très difficiles. Mais je crois que à un moment donné, la notion d'égalité est un cul-de-sac et surtout qu'elle escamote complètement une notion essentielle qui est la notion de complémentarité. On a une interdépendance, une codépendance qui n'est pas de la domination, qui est j'ai un pouvoir et j'ai des possibilités et toi tu en as d'autres. Et c'est dans cette reconnaissance aussi très humble de ce que l'autre a apporté et de ses limites que nos grands-parents ont parfois trouvé de quoi alimenter au long cours leur relation amoureuse et finalement trouver une certaine forme de stabilité. Donc je crois que c'est aussi le caractère et la représentation qu'on a de l'autre sexe qui fait notre destin, hein. C'est pas forcément le sexe qui fait le destin. Et éduquer nos enfants dans l'idée que le bonheur conjugal va forcément reposer sur une comptabilité, une égalité quantitative, une répartition équitable du temps avec le bébé, des tâches ménagères, ça va plutôt introduire de la méfiance, de la concurrence, de la compétition dans le couple, de l'aigreur, et surtout faire passer les couples à côté de la notion de complémentarité. Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs dans ce débat sur l'allongement du congé paternité, mais qui finalement laisse les femmes qui viennent d'accoucher toujours dans la même difficulté, à savoir reprendre le travail au bout de 2 mois et demi à peine cicatrisé. Et donc, je pense qu'on a oublié cette notion de complémentarité et que, Maxence Carsanin se penche beaucoup justement dans son livre sur le fait que la génération des trentenaires a du mal parfois à trouver des repères parce que finalement ils n'ont le choix qu'entre 2 discours très péremptoires ou les discours masculinistes qui sont peut-être aussi le retour de bâton qu'on se prend après trop de féminisme et trop de on n'a pas besoin des hommes et puis les féministes radicales qui sont dans une sorte de retournement à 180 degrés, il y a eu du patriarcat donc il faut se venger des hommes et finalement on reste dans quelque chose que je trouve très manichéen, très paranoïaque, très immature, à savoir le problème c'est l'autre, il y a le bon objet, le mauvais objet, évidemment c'est toi le mauvais objet et je suis le bon objet. Et quand je parle de complémentarité, je vois bien qu'il y a des réactions. On me dit non, mais la complémentarité, de toute façon, c'est toujours au détriment des femmes. Moi, j'y crois pas du tout. Au fait que la complémentarité soit au détriment des femmes. Au contraire, je pense que beaucoup de femmes aimeraient que leur homme puisse assumer certaines choses pendant qu'elles s'occupent du bébé. Et Maxence Carsanin, dans son livre, parle justement de ces représentations qui circulent sur les hommes et les femmes dans la société contemporaine. Et vous dites, je propose de lire les discours machistes à propos des femmes comme des révélateurs des craintes typiques du psychisme masculin et les discours misandres à propos des hommes comme des révélateurs des craintes typiques du psychisme féminin. On y revient toujours, hein, le militantisme, c'est de la peur qui n'a pas été travaillée. Et vous dites, c'est une culture qui encourage la génération Z au court terme, à la méfiance, au manque d'engagement, à la superficialité, à la suprématie des sensations qui fait de l'amour un produit standardisé comme un autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Eh bien, je pense qu'on a fait un amalgame entre les questions d'inégalité et ce qui caractérise la différenciation des sexes. C'est-à-dire que rien n'empêche un homme d'avoir tout ce qui le rend désirable aux yeux du sexe opposé, pour autant, tout en faisant sa part dans les tâches du ménage, par exemple. Il y a un lien pernicieux qui est fait entre le manque de bonne volonté et les caractéristiques typiques de son sexe.
Oui.
Ce qui pose tout un tas de problèmes insolubles, alors qu'en fait, il voudrait simplement respecter la vertu de justice, plutôt que de chercher dans la socialisation
les racines de tous nos maux. Pour les auditeurs d'Europe 1
C'est-à-dire qu'il s'agit de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, la question de l'égalité ne dépend pas du fait qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Il n'y a pas un sexe qui est éduqué dans le fait de moins respecter la question de l'égalité.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'en plus, en mettant le concept d'égalité, on se crée un cul-de-sac conceptuel, puisque en fait, on prétend pouvoir nier la différence des sexes et que l'égalité n'est pas l'indifférenciation. Donc, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ça pousse aussi les jeunes à perdre des repères dans leur représentation du sexe opposé parce que c'est interchangeable et c'est indifférencié, c'est ça ?
En bonne partie. Et également, on a tendance à reporter le débat sur l'essentialisation de la catégorie homme ou femme.
Oui.
Alors qu'en réalité, ce que montrent les études en psychologie, c'est que les comportements désagréables, agressifs, voire violents, dépendent de traits de personnalité sous-jacents.
Tout à fait.
Qui dépassent largement la question des deux sexes, en fait.
Tout à fait. Exactement. Et pas tellement du fait d'être un homme ou une femme. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on parle des pervers narcissiques ou de la dépendance affective, et vous me dites que c'est plutôt un problème d'homme ou un problème de femme, je dis non, en fait, c'est une question de construction de la personnalité, évidemment. Alors, vous dites aussi dans votre livre les générations, le rapport entre les générations a évidemment beaucoup changé. Et je vous remercie parce qu'il y a un passage très important où vous rappelez que justement, peut-être la génération actuelle des 50-60 ans, pense la transmission sur le plan matériel, mais finalement ne s'investit pas au long cours dans le soutien aux jeunes couples qui accueillent un enfant. Alors, pour rassurer les auditeurs d'Europe 1, on a fait une émission sur le rôle des grands-parents et je sais qu'il y a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui s'investissent à fond dans l'arrivée du petit enfant ou de la petite fille, donc ça n'est pas quelque chose d'individuel, on est sur une description plutôt sociologique. Mais vous dites, c'est une génération qui est tellement tentée par le maintien de sa propre jeunesse que parfois, certains d'entre eux renoncent à exercer une fonction de guide.
Oui, alors c'est-à-dire que je cherche à sortir justement de ce clivage des générations et de dire en fait tout allait bien dans le meilleur des mondes et arrive une génération de jeunes un peu malades qu'on essaie de scruter un petit peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, je pense que le symptôme le plus global, c'est qu'il y a un arrêt du développement et des rêves des individus sur une jeunesse perpétuelle. Et ça, c'est valable pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes. C'est juste que les jeunes d'aujourd'hui sont les premiers à avoir cette aspiration à rester éternellement jeune et en avoir les moyens au moment où ils le sont encore.
Oui, alors en fait, ça, c'est ce que Christopher Lasch avait déjà diagnostiqué, identifié dans La culture du narcissisme. Il dit l'homme moderne n'est plus un homme qui s'inscrit dans un tout avec une transmission et un surmoi quand même qui lui interdit certaines choses. C'est devenu un narcisse. Et à 50 ans, il veut être flamboyant, triomphant, et donc il laisse pas forcément la place à la génération d'après. Et il vit comme une perte le fait de gagner en maturité et en sagesse. Il ne veut pas de cette maturité et de cette sagesse.
Et je pense que personne ne devient sage volontairement. C'est toujours une histoire de grand brûlé.
Marie-Estelle Dupont, vous soulignez qu'une des impasses est d'être focalisé uniquement sur l'égalité, hein, l'égalité, ce qui fait passer les hommes et les femmes à côté des différences fondamentales. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ?
Oui, mais c'est ce que je disais pendant mon audition à l'Assemblée sur la dénatalité. Oui. Je disais que quand les femmes sont soumises au discours qui leur fait croire que pour être épanouies, libres, heureuses et féminines, il faut qu'elles s'affranchissent de la maternité parce que le don de soi les empêche d'être des hommes comme les autres, en fait, on enferme aussi les femmes dans quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, tu ne pourras être une femme épanouie que si tu es en fait en conflit psychique avec toi-même et que tu renonces à ton pouvoir maternel. Or, le pouvoir maternel, c'est pas seulement le pouvoir d'enfanter. C'est aussi un rapport à la vie qui est différent du rapport d'un homme qui est peut-être plus dans le concret, dans la fabrication de choses, dans la conquête, dans l'extériorité. La femme a aussi ce pouvoir, moi je crois beaucoup, d'inspirer et d'être du côté du monde intérieur et notamment de la spiritualité. D'ailleurs, on dit que la religion passe par la mère, dans beaucoup de religions, la mère initie l'enfant et apporte à son mari normalement quelque chose de la connaissance de son monde intérieur et un espace pour ses émotions. Et donc je pense que oui, on a une incompréhension de l'altérité qui se joue chez les jeunes, où finalement, et alors on le voit bien avec les réseaux sociaux et les algorithmes et les applis de rencontre, on cherche des connexions et des amitiés ou des rencontres sur la base de l'identité de goût, de l'identité d'attirance et de l'identité donc de la communauté, et pas de la différence. Donc en fait, il y a un déni de l'altérité qui fait que quand c'est différent de moi, ça ne m'enrichit pas, ça m'effraie. Et donc ça, je pense que pour la génération actuelle, ça rend le fait d'être en couple extrêmement difficile, parce qu'en fait, c'est pas je vais à la rencontre de l'autre qui est un alter ego mais qui est à la fois pareil et différent, c'est je cherche un double, un miroir, et donc un jour ce miroir va me décevoir, ce qui va pas me renvoyer ce que je veux de moi, et ça rend le couple extrêmement fragile. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxence Carsana?
J'en pense que ce problème de la recherche du double est quand même très ancien. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'idée de l'androgyne chez Platon. Mmh. On cherche celui qui va nous compléter, qui va nous épargner toutes les souffrances, qui va. Enfin, c'est le mythe de l'âme sœur en fait. Mmh. La différence aujourd'hui, c'est que on peut avoir cette illusion de pouvoir vraiment la chercher, parce que la dépendance à autrui, qui était liée aux conditions matérielles d'existence, est réduite à quasiment à néant aujourd'hui. Donc les relations se fondent vraiment sur l'affinité. Donc la question étant, jusqu'où va l'affinité? Est-ce que on va rejeter quelqu'un qui a 80% de tout ce qu'on veut pour les 20 derniers pourcents manquants? Eh ben, je pense que de plus en plus, on a tendance à se dire que oui, en fait, je vais trouver mieux. Et ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup dans les ruptures. C'est qu'on a rarement des personnes qui vont avoir une vision nuancée de la rupture. C'est très souvent soit totalement la faute de l'autre, soit beaucoup la faute de l'autre. Et au lieu de se remettre en question, on va doubler la liste des exigences, et ce qui fait que le prochain sur la liste...
Ou soit totalement de leur faute, il y a beaucoup de patients qui disent « je ne suis pas aimable hein. ».
Non, c'est généralement pas la conclusion à laquelle on aime arriver. Et c'est souvent la prochaine relation qui va payer les pots cassés de la précédente.
Restez bien avec nous sur Europe 1, dans un instant la suite des meilleurs moments de « Et si on en parlait » avec Marie-Estelle Dupont sur Europe 1. À tout de suite.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1. Ce week-end sur Europe 1.
Tout à l'heure de 17h à 18h.
Visitez avec William Lémergie
la Gand Triennielle à Saint-Junien dans la Haute-Vienne.
Demain de 13h à 14h, Émeric Pourbet décrypte l'actualité philosophique et culturelle.
Dans En quête d'esprit et de 17h à 18h, Didier Barbelivien s'entretient en chanson avec Max Guazzini,
secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot.
Europe 1. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant? DS Automobile présente, numéro 4, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 395€ par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pensez à covoiturer.
Je me suis perdu. Trop d'offres?
On est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300€ de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359€ par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage Motion Hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359€. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pensez à covoiturer.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Marie-Estelle Dupont.
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Les meilleurs moments de ici, on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont. On va réécouter un extrait de l'émission de lundi dernier sur le wokisme. Et vous aviez invité le docteur en philosophie, Samy Biazoni.
Oui, on est revenu sur ce grand courant qu'est le wokisme et son origine aussi. Et pourquoi il a eu une telle emprise sur la nouvelle génération, d'où il vient et comment les réseaux sociaux aussi ont contribué à sa diffusion.
Est-ce que vous définiriez le wokisme comme le royaume des fausses victimes?
Alors, c'est-à-dire que l'intersectionnalité, le problème, c'est que ça tue aussi les problématiques singulières et individuelles et ça interdit la nuance. Mmh. Donc c'est très engloutissant pour la pensée. Ça vous réduit à une pensée extrêmement manichéenne. Soit tu es dans la flaque, soit tu es un ennemi et tu es à l'extérieur. Est-ce que c'est le royaume des fausses victimes? C'est le royaume de l'assignation à l'identité de victime, c'est-à-dire qu'être victime devient une identité, alors que normalement, en psychologie, on dit il faut reconnaître ce qu'on a subi à quel moment on a été victime pour pouvoir sortir du statut de victime. Et là, on voit bien comment, notamment, on en parlera dans le champ des pathologies mentales et de la pratique clinique, on inverse la déontologie des psychologues. C'est-à-dire que là où le psychologue doit dire à un moment T de votre vie, effectivement, vous êtes victime, qu'est-ce que ça vous a fait et qu'est-ce que vous en faites ? C'est-à-dire qu'être victime est une situation à un moment T, mais ça n'est pas une identité. Tout d'un coup, la légitimité du discours, c'est cette identité par l'extérieur, cette identité factice de statut de victime, avec évidemment un tribunal idéologique qui désigne les indignations et les victimes acceptables, les indignations et les victimes pas acceptables.
Le wokisme vous maintient dans le statut de victime, c'est ça, hein ?
Mais oui, puisque c'est de ça qu'il se nourrit, puisque ça permet que l'argumentaire soit très pauvre et qu'on exige et qu'on impose et que le désir devienne un impératif catégorique. Si tu ne reconnais pas mon désir de nier la différence des sexes, la différence des générations, etc., c'est toi le fasciste, c'est toi le salaud. Donc ça permet quand même de faire l'économie d'un raisonnement construit et d'obtenir tout ce qu'on veut en hurlant. C'est des méthodes de manipulation assez élémentaires. Mais je pense qu'il faut recontextualiser l'émergence du wokisme. C'est-à-dire qu'en fait, au XXe siècle, il y a eu vraiment un basculement. On est passé d'une société qui était plutôt organisée autour de grands cadres et à titre individuel autour d'un surmoi, c'est-à-dire d'une instance à l'intérieur de nous qui résumait les grands interdits, à une société plutôt sur le registre du narcissisme tel que l'a décrite Christopher Lasch, où le moi-je contre tous les autres, l'individualisme, l'interdit d'interdire, l'impératif de jouir sans entrave, a finalement modifié, a contribué à mettre à bas évidemment toutes les différences, différences de génération qui sont vues comme de la domination, différences des sexes qui sont vues comme du fascisme patriarcal, etc., etc. Et donc, on est passé de cette société plutôt surmoïque à une société très très narcissique qui finalement est aussi le fruit d'un idéal néolibéral. Donc c'est assez intéressant de voir comment certains libéraux s'insurgent de la montée du wokisme, mais finalement on en a préparé les conditions dans les années 70 avec cette idéologie très libertarienne en fait. Et avant ça, mais on y reviendra dans l'émission, pour moi c'est dès les années 30 avec ce mouvement en Europe de désacralisation où la science est dans un courant de positivisme pur, de scientisme pur, où finalement l'abstraction, la rationalisation coupée de la réalité et de l'expérience sensible du réel, c'est ce que Marcel Decordes décrit dans L'intelligence en péril de mort, la science va se couper de la réalité et donc va faire le lit d'un certain nombre d'idéologies. Mais je voudrais, avant peut-être de revenir plus en détail sur le contexte d'émergence du wokisme, demander à Samy Biazoni de rappeler aux auditeurs d'Europe 1 les méthodes justement de ce wokisme qui se veut tolérant et inclusif, mais qui parfois est quand même très antidémocratique dans sa manière de s'y prendre.
Alors, le wokisme est un mouvement sans tête, c'est un mouvement sans dogme, c'est un mouvement idéologique sans sujet, mais qui a un objet très clair et qui en revanche a une action sur les sujets. Donc, lorsque vous posez la question des modalités d'action, elles existent. Elles sont simplement désincarnées d'un point de vue strict et institutionnel. C'est-à-dire que par rapport à d'autres mouvements qu'on a pu connaître dans l'histoire, ou voire même l'intégralité des mouvements antérieurs, on a ici quelque chose de très décentralisé, sans corpus extrêmement défini. Si bien que l'action a une importance très singulière. La première, c'est une forme d'intolérance à la pensée tierce. Puisqu'il y a un réseau de rapports de domination omnipotent, qui est dans une forme d'ubiquité, c'est-à-dire qui est partout dans la société, le fait d'énoncer des propos, de tenir, d'avoir des positions qui sont différentes de celles de la pensée dite woke, c'est déjà commettre une faute. Et donc, première modalité d'action, c'est effectivement celle d'une forme de censure ou d'intolérance à la parole de l'autre, à la pensée de l'autre.
Oui, mais qui va jusqu'aux autodafés, qui va jusqu'à interdire des conférences.
Bien sûr.
Qui va jusqu'à ne pas accorder un examen à un élève enseignant qui est très bon sur le plan académique parce qu'il ne récite pas la liturgie woke. C'est ça, les méthodes d'action.
On a pu les constater et partout. Partout où le wokisme a finalement pris position. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est le refus d'une certaine science et d'une certaine rationalité. On pourra peut-être y revenir. Le troisième, c'est celui d'une forme d'entrisme un peu passif que vous décriviez. C'est-à-dire que, en fait, l'empire du wokisme n'a pas de frontières. Il doit s'étendre en toute chose et en tout territoire, dans la famille, comme dans l'entreprise, comme dans la société, comme dans l'association. Donc c'est une modalité d'action un peu particulière, parce qu'elle est ubiquitaire.
Donc elle passe par le langage.
Elle passe. Le langage est un de ses vaisseaux, mais elle aspire à passer par tous les canaux qu'elle peut avoir. Donc voilà les différentes modalités d'action. Le dernier, paradoxalement, c'est le champ du politique, qui est peut-être le moins bien défini, c'est-à-dire que c'est un mouvement par nature politique, mais il est tellement large, il embrasse tellement de réalités qu'en réalité, il en oublie parfois même l'action politique directe. Il procède par action politique indirecte. Mais on pourrait y revenir aussi.
J'ai l'impression que vous décrivez un mouvement sectaire.
Alors, Jean-François Bronstein...
Qui exclut ceux qui ne pensent pas comme vous, qui rentrent dans votre vie privée. Là, je vous écoutais, j'avais l'impression que vous décriviez un mouvement de type sectaire, en tout cas.
Jean-François Bronstein parlait de la religion woke dans un essai qu'il a publié il y a 3 ans, je crois. Effectivement, la frontière entre une forme de religiosité un peu fanatique et le sectarisme est très fine. Il tient d'une religiosité dans le wokisme un certain nombre d'éléments, dont la croyance en des formes supérieures, une forme de transcendance qui serait l'égalitarisme, le refus de pensée alternative. Donc tout cela, effectivement, c'est une forme de religiosité. Ce qui va devenir, ou faire advenir ou pas, le sectarisme, c'est l'emprise sur les individus. Donc dans certains cas, oui. Vous savez ce qu'on dit souvent lorsqu'on compare notamment les mouvements, par exemple, maçonniques et une secte. On dit, finalement, en maçonnerie, on entre difficilement, mais on sort facilement. Dans une secte, on entre très facilement, mais on en sort difficilement. Donc, si vous voulez jauger du niveau de sectarisme d'une idéologie, par exemple, d'un groupe, vous jugez de la facilité à en sortir. Et effectivement, le wokisme est absolument intolérant à la trahison. D'ailleurs, vous noterez que ce sont tous les repentis qui ont le plus souffert de ces affres.
Oui, et je pense que dans la dimension religieuse, la religion sert quand même à donner des clés de lecture à la réalité. L'enjeu du wokisme, c'est de le déconstruire, le réel. C'est pas d'essayer de donner un sens, une transcendance à la réalité qui est parfois difficile à vivre et frustrante pour les individus. C'est on va le déconstruire puisque le réel est fasciste. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une différence des sexes, le fait qu'il y ait des rapports de filiation, le fait qu'il y ait des différences de génération, c'est une expression de domination culturellement construite. Et il y a des idéologues woke qui vont vous expliquer que votre système endocrinien et même votre ossature, c'est une construction culturelle. Le réel n'existe pas. Donc on est vraiment dans une idéologie qui déteste le sens commun, qui déteste le bon sens. Et donc, évidemment, elle a plus d'emprise sur des intellectuels très coupés de leur corps, très coupés de la réalité, que chez des agriculteurs. Il n'y a pas d'agriculteurs woke. Et donc, l'épreuve de réalité, elle est répugnante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... On se prétend être des intellectuels parce que, finalement, on va regarder tous les phénomènes humains avec un peu de manière très, très hautaine, avec une grille militante qui va décrire même les événements physiologiques les plus élémentaires, comme l'allaitement, comme la preuve d'un système de domination. Et je pense que c'est... vraiment important de comprendre que pour tout déconstruire, ils doivent s'en prendre à 2 choses. C'est la réalité du corps, qui est notre limite, qui est l'expression. Voilà, mon corps est mon véhicule pour l'existence, mais c'est aussi ma limite, puisque et la mort va être la castration absolue, c'est-à-dire que mon corps n'est pas immortel. Et le langage, puisqu'ils vont évidemment utiliser, comme tous les systèmes totalitaires, le langage pour faire passer dans votre esprit des prises de position que vous allez prendre à votre corps défendant. On en parlait dans la dernière émission avec vous, Samy Biasoni, quand on dit écriture inclusive, on voit bien comment il y a une inversion et un glissement sémantique. L'écriture inclusive est exclusive. Elle met de côté les étrangers, elle met de côté les dyslexiques, elle met de côté tous ceux qui peinent à déjà apprendre la langue telle qu'elle est. Donc je pense qu'il y a des points communs avec la secte, et qu'effectivement c'est décrit comme un mouvement religieux, parce qu'il y a eu aussi aux États-Unis 3 siècles de grand réveil évangélique, mais ça ressemble plus à une mode puritaine, très puritaine. D'ailleurs, ça a eu beaucoup d'emprise dans les pays protestants, plus vite que dans les pays catholiques, où vraiment la chair est considérée comme quelque chose de sale, dont il faut se méfier. Et il y a un peu cette dimension très puritaine chez les défenseurs du wokisme, puisqu'il faut reconstruire le réel qui n'est pas tolérable, en fait.
Les meilleurs moments de SI, on en parlait avec Marie-Estelle Dupontien. Vous pouvez dès maintenant nous adresser vos témoignages par mail à SI, on en parlait, tout collé, @europe1.fr, ou vous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Shannon est à votre écoute. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 pour la suite.
Marie-Estelle Dupont, Romain Desarbres.
15h, 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Stéphanie Demuru. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Ouvrir le micro à toutes les opinions.
Stéphanie Demuru, Europe 1 soir week-end, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h. Europe 1. La radio libre.
Lidl, ça vaut le coup. Les émincés de porc Origine France à 3,19€ au lieu de 3,99€, à mijoter à votre sauce, ça vaut délicieusement le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, les émincés de porc Origine France sont à 3,19€ au lieu de 3,99€, moins 20%. Lidl, ça vaut le coup. 400 grammes, 7,98€ le kilo avec Lidl Plus, 9,98€ le kilo sans Origine France. Offre valable jusqu'au 21 janvier.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentiel, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Boulanger. Ok, tu préfères un portable qui fait des promesses ou un HP qui tient la route partout ?
Promesses ? Ah non, merci, moi je préfère les soldes Boulanger.
On préfère tous les soldes chez Boulanger. Des centaines de bons plans et le bon choix. Comme le portable HP 15 pouces SSD 512 Go à 499,99€ au lieu de 699,99€. Commandez-le et retirez-le en une heure. Boulanger. Plaisir partagé. Jusqu'au 3 février, modèle FC0134NF, 3,98€ d'éco-participation. Conditions, boulanger.com.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290€ pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essentiel SCE 65,9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à novembre 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, 2026, les bonnes affaires, le roi Merlin reprennent. Et alors là, quand je dis que jusqu'au 28 février, la pose de votre poêle à boire et à granuler par notre partenaire Cabane est à 1 euro seulement, là vous vous dites, 2026, ça envoie du bois.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Informations sur cabane.com. Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov.
Marie-Estelle Dupont,
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Les meilleurs moments de SI, on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont, sur Europe 1. On va réécouter un extrait de l'émission de mercredi qui était consacré aux personnalités pathologiques. Et nous étions avec Jean Cottreau.
Tout à fait. On est revenu sur les personnalités pathologiques, sur les troubles de la personnalité et surtout comment les identifier et se dégager de leur emprise parce que, évidemment, ces personnes ont parfois un impact très négatif sur leur environnement. Jean Cottreau, pour les auditeurs d'Europe 1, donc je rappelle que vous êtes psychiatre honoraire des hôpitaux, que vous êtes ancien président de l'Association européenne de thérapie comportementale et cognitive, et vous êtes auteur de nombreux livres depuis de nombreuses années. Moi, j'avais beaucoup lu La répétition des scénarios de vie quand j'étais étudiante. Là, vous venez de sortir Se libérer de l'emprise et des personnalités toxiques, où vous dressez des portraits très détaillés de différents types de personnalités pathologiques, les personnalités narcissiques, les personnalités borderline, et surtout, vous nous dites comment s'en dégager petit à petit, parce qu'on n'aborde pas les choses de la même manière selon qu'on a un borderline ou un paranoïaque ou un narcissique en face de soi. La première question que j'avais pour les auditeurs d'Europe 1, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des personnalités antisociales, ce qui permet de les détecter et une fois qu'on les a identifiées, évidemment, comment est-ce qu'on peut se dégager d'une relation privée ou professionnelle avec une personnalité antisociale ?
Bien, les personnalités antisociales sont caractérisées par la transgression permanente des règles et des lois. Donc, c'est une personne qui sont sans arrêt dans une attitude antisociale. On les qualifie d'antisociaux, d'ailleurs, psychopathes. Et ils sont repérables très, très rapidement, en réalité. Mais ils ont un pouvoir de séduction. Et je crois que c'est ce que montrent les études, c'est que la personnalité antisociale, du fait de sa transgression, peut avoir un impact sur la vie émotionnelle, en particulier d'une femme qui est séduite par une personnalité antisociale. Et c'est un sujet qu'on retrouve extrêmement fréquemment. J'ai même vu des infirmières séduites par des personnalités antisociales dans les hôpitaux. Et...
qui étaient des médecins très charismatiques.
Oui, voilà. Oui. Donc, il y a un risque de séduction. Alors, s'en dégager, c'est...
Oui, c'est pour ça que c'est important de préciser que la personnalité antisociale n'a pas toujours le visage du petit délinquant de rue impulsif qu'on va prendre la main dans le sac. Non. Ça peut être quelqu'un de très haut niveau,
qui a
très bien réussi dans la hiérarchie sociale.
Exactement.
Et là, il est presque plus dangereux parce qu'il avance à visage masqué.
Il avance à visage masqué, mais la découverte, c'est que la transgression est permanente.
Oui, il arrache le consentement en permanence, mais il contourne les règles.
Oui, exactement. Et ça peut avoir un côté très séduisant, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Donc la personnalité antisociale peut se manifester très subtilement. Et à ce moment-là, la personne est engagée dans une démarche où petit à petit, elle va être entraînée aussi dans la transgression. Alors le dégagement à ce moment-là, c'est que quand on annonce qu'il va falloir transgresser ensemble pour la drogue, pour... une attitude violente vis-à-vis des autres, etc., c'est de partir, mais ce qui n'est pas toujours évident, puisque il y a la peur peut s'installer de la rétorsion par une personnalité antisociale qui peut se révéler menaçante.
Oui, bien sûr, et puis qui, dans le milieu professionnel, par exemple, va attaquer votre réputation pour vous isoler et vous obliger à rester sous son emprise.
Oui, tout dépend comment se situe le scénario. Alors, si c'est dans un milieu professionnel très rigide, ça va vite éclater. C'est-à-dire que la personnalité antisociale se fait éjecter. Mais ça peut durer quand même des années dans des milieux très libéraux où l'antisocialité ne se manifeste pas très, très directement.
Ah oui, alors parfois c'est la personne saine qui est obligée de partir. Moi je pense à un ami qui a dû quitter un travail qu'il passionnait parce que son chef était tellement dans la toute-puissance et tellement dans cette séduction un peu du mafieux, quoi. Et viens, oui. Toi je vais t'apprendre, etc. Oui. Que lui, il avait son éthique personnelle qui fait qu'à regret, il a fini par quitter le poste et démissionner en plus. Donc il était assez perdant, il n'a pas pu négocier parce que l'autre s'est mis en colère quand il a voulu partir. Et finalement, ce vieux renard est resté dans sa toute-puissance et il a manipulé quelqu'un d'autre.
Oui, exactement. C'est une situation qu'on peut voir. La recommandation, c'est le ghosting, disparaître. Disparaître sans laisser de traces et repartir sur autre chose.
Alors, j'avais une autre question. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs d'Europe 1, parce que parfois il y a des confusions qui sont d'ailleurs une grande souffrance pour nos patients qui se font entre différents troubles de la personnalité, ce que c'est qu'un trouble de la personnalité borderline ?
Oui. Alors, la personnalité borderline peut être aussi bien du côté des victimes que du côté des prédateurs. C'est-à-dire que du côté des prédateurs ou de la prédatrice, la figure de la personne borderline, ça peut être la vampe. Dans le livre, il y a un exemple de vampe tout à fait gentille, finalement une bonne vampe, mais qui vampirise un homme et qui en fait ce qu'elle veut. Et parce que les borderlines sont des personnalités qui ont des problèmes d'attachement, mais qui de ce fait sont attachantes. Et elles peuvent être quelqu'un qui exalte un peu la sexualité ou la vie émotionnelle d'un homme du fait de leur surplus d'émotions. Donc à ce moment-là, l'homme peut être vampirisé et jeté au moment
ou la femme quand c'est un homme borderline,
oui, ça peut être inversé, oui.
Il est vampirisé s'il confond l'intensité avec la profondeur, parce que ce sont des personnes qui nous font vivre beaucoup d'intensité, les borderline.
Exactement.
Ils sont en tout ou rien, donc
il peut donner de la profondeur aussi.
Mais néanmoins, on peut arriver à discerner, non, quand on a un petit peu de
ça
discernement
peut être pour
de recul.
Un homme une expérience salutaire d'avoir une liaison avec une borderline.
L'émission dévie complètement.
Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
C'est épuisant parce que c'est très fatigant.
Ça peut être fatigant. Inversement, une borderline qui est très dépendante, parce que c'est une variété, une sous-variété, très dépendante, peut tomber
affective.
Sous la coupe d'un homme qui a une personnalité psychopathique. Et à ce moment-là...
Association fréquente.
Ouais,
ça peut
être très, très dangereux pour elle ou pour lui. C'est plus fréquemment des femmes quand même, les borderline. Il y a des hommes borderline. Oui. Il y a un très bon film qui s'appelle « Prends garde à toi », je crois qu'il a disparu avec Nathalie Baye, où Nathalie Baye est victime d'un homme borderline qui l'a fait tomber.
Oui, alors je pense que pour les auditeurs d'Europe 1, c'est important de rappeler quand même la caractéristique principale du borderline, hein, ou de la borderline, c'est qu'il y a vraiment une difficulté dans la régulation des émotions, qui a pour conséquence sur les relations que les choses sont vécues en tout ou rien, et avec beaucoup d'impulsivité et très peu de nuances. Exactement. Très peu de mise à distance. Ils élaborent très peu ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses très très fortes, mais faire un pas de côté pour revenir avec quelque chose de présentable à l'autre et de digeste et de communicable. Le borderline, il a du mal à faire ce pas de côté et à rendre les choses transmissibles et à se rappeler que l'autre est une personne et qu'on peut pas tout lui mettre sur la table d'un coup.
Mais du côté positif, le ou la borderline, c'est souvent le créateur artistique. Oui. C'est ce qui peut quand même être le si vous prenez le Caravage, par exemple, il était extrêmement borderline et psychopathe. Il a quand même laissé quelque chose. Et on en trouve tous les jours, sans parler de personnages contemporains, hein, donc qui sont des créateurs, qui sont souvent invivables. Comme vous avez dit, ça peut être totalement invivable, mais ça peut être intéressant. Il faut valoriser ce type de personnalité en voyant les limites.
Quoi. Et la thérapie, d'ailleurs, essaye de les pousser vers leur créativité artistique.
Hein. Exactement.
Marie-Estelle Dupont, qu'est-ce qu'on fait quand on a un conjoint, une conjointe qui a un trouble de la personnalité?
Eh bien, on souffre.
Ouais.
C'est la première chose. Ouais. Et en général, on est celui qui va...
Et d'ailleurs, peut-être sérieusement, c'est en souffrant qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème.
On souffre et en général, une personnalité saine qui est avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, mais qui n'a pas forcément les billes, les informations, les éléments pour le diagnostiquer, parce qu'on ne se marie pas forcément après un master de psychopathologie, va en consultation. Il dit, je souffre, il y a un problème dans mon couple, les conflits prennent des proportions incroyables, ça se répète toujours au même moment, mais quand j'essaye de lui faire remarquer que c'est toujours sur les mêmes choses, il n'y a pas d'insight, il n'y a pas d'introspection chez mon conjoint, donc le dialogue n'avance pas. Le dialogue n'est pas fructueux, en fait. Et donc, en général, c'est plutôt les victimes des personnes qui ont des personnalités très pathologiques qui vont en consultation. Finalement, le trouble de la personnalité, il trouve un modus vivendi et j'ai envie de dire, comme il enquiquine les autres, il va. C'est pas qu'il va bien, parce qu'il y a une souffrance chez la personne qui a un trouble de la personnalité, mais il y a parfois cette case manquante de l'introspection qui fait qu'à un moment donné, on se dit, je vais arrêter de répéter en permanence les mêmes situations avec tout le monde en pensant que c'est moi la victime de malchance. Il y a peut-être un dénominateur commun à toutes ces relations, c'est moi. Et donc, c'est souvent le conjoint. Et nous, notre travail, c'est de dire... moi, je pense beaucoup à un patient qui est encore très abîmé par un trouble de la personnalité de son ex-femme, qui en plus était associé à de la bipolarité, et qui se sentait vraiment coupable et vraiment être un mauvais mari. Et quand j'ai commencé à lui donner simplement des éléments pédagogiques sur ce que c'est que le trouble borderline, ce que c'est que la bipolarité, en fait, il a compris pourquoi il ne pouvait pas arrêter les crises de sa femme. En fait, c'était du ressort de la psychiatrie, c'était pas du ressort du mari qui console ou qui rassure sa femme. Donc, on explique des choses et en général, oui, c'est les proches qui consultent et là, après, soit ils arrivent à proposer une thérapie de couple, soit ils arrivent à amener leur conjoint à travailler sur lui, soit ils n'y arrivent pas et parfois la souffrance est trop grande et pour protéger les enfants, parce que ça a aussi un impact sur les enfants, certains choisissent de demander la séparation pour offrir un foyer stable aux enfants qui peuvent au moins avoir un autre mode de fonctionnement. Mais en général, c'est plutôt les conjoints qui vont en consultation en premier.
Question que je peux poser à tous les deux. Quels sont les dégâts commis par ce type de personnalité? Peut-être Jean Coutreau, qu'est-ce que vous en pensez?
Les dégâts sont liés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'impulsivité, c'est-à-dire des scènes, des ruptures brutales, des menaces de suicide. Il faut quand même bien aussi que En thérapie, le boulot du thérapeute, c'est de maintenir en vie les borderlines jusqu'à 40 ans, parce que ça s'arrange vers 40 ans. Donc, on a fait une grosse étude avec les collègues marseillais contrôlés. On a eu zéro suicide avec la thérapie cognitive. Et le boulot, c'était essentiellement de maintenir les gens en vie jusqu'au moment où les choses peuvent s'atténuer. Il y a un apaisement vers la 40-50 ans, le trouble de personnalité borderline. Et le risque majeur, c'est le risque suicidaire quand même, et du fait de l'impulsivité.
De
l'impulsivité. Alors évidemment, vous avez parlé du risque avec les enfants, du risque sur les conjoints qui dépriment aussi, qui finissent par venir en thérapie. Mais j'ai eu beaucoup de borderline qui venaient directement en thérapie, directement, et en disant vous êtes le dernier thérapeute que je vois. On voyait des cicatrices de phlébotomie sur le et en joignant vous me sauvez ou vous me sauvez pas.
Moi, c'est comme rappelle,
ça se joue.
Ouais, je me rappelle d'une patiente borderline, j'étais toute jeune thérapeute, et qui me dit, et je partais trois semaines après en vacances, c'était mes premières vacances de jeune psychologue clinicienne, et qui me dit vous êtes la dernière que j'essaye et sinon je me suicide.
Voilà.
Alors, je suis partie en vacances dans un état de profonde sérénité en main des arbres.
J'imagine.
Vous avez affaire à ça, oui. Et pour les enfants, le problème, c'est que si vous voulez, comme les figures d'attachement sont évidemment les modèles identificatoires, et que l'enjeu de l'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant à devenir autonome pour réguler ses émotions, quand il a un parent qui flambe en permanence, qui va très très haut dans la joie, très très haut dans la colère, etc., il pense que c'est comme ça. Que c'est normal d'être quand on est adulte. Donc, les identifications pour l'enfant sont difficiles. Et souvent, on dit c'est l'enfant qui a un problème. En fait, l'enfant est une éponge, il est le reflet de son environnement, il pense qu'il fait bien en faisant comme son papa ou sa maman. Donc, le trouble de la personnalité, quand on est parent, faut se responsabiliser, quoi. Faut aller le soigner.
Pour être très concret, comment s'aperçoit-on qu'on est face à une personnalité borderline ? Jean Cottreau.
C'est les mouvements émotionnels, c'est-à-dire ça suscite chez l'autre personne des réactions émotionnelles qui peuvent être positives, et aussi ça remue beaucoup.
Ouais.
Et c'est là où est la séduction du ou de la borderline. Et il y a des tableaux changeants, des changements d'humeur, du rire aux larmes. Il y a aussi des réactions qui peuvent être très violentes sans justification. Il peut y avoir eu des départs précipités, des menaces de suicide ou une relation.
Ça, c'est dans le couple, mais j'allais dire dans la vie de tous les jours, ou même dans l'entreprise.
Non, mais même dans l'amitié, hein, quand on a une copine borderline, elle peut être très impulsive, très mal réagir.
Et on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas.
Qui est dérégulé.
Il n'y a pas de tempérance, pas pour normal, le dire avec un vieux mot, il n'y a pas de tempérance, en fait. Voilà, les choses ne sont pas élaborées, donc du coup ça sort de manière très primaire. C'est pas
ça se retrouve en thérapie. D'ailleurs, je me souviens d'une des patientes qui avait dit bon, j'en ai marre de cette thérapie, je me casse. Elle se lève. Alors, la réponse que j'ai eue, j'ai dit écoutez, je propose de vous rasseoir parce que sinon cette thérapie va être un échec comme les 4 ou 5 que vous avez eu avant. Elle s'est rassise et on a pu travailler pendant 2 ans. Elle s'en est sortie. Je l'ai publié d'ailleurs dans un livre, et parce que à ce moment-là, il faut que le thérapeute ne réagisse pas trop. C'est-à-dire, il peut dire, laisser partir la patiente en disant ouf, c'est étouffant, etc. Quand on a un peu de bouteille, on dit rasseyez-vous, on va voir ça.
Ce qui retire le pouvoir de chantage au patient quand vous faites
exactement.
Ça, en fait,
et
vous êtes pas
c'est un test de la solidité du thérapeute. Et ça, il faut le prendre comme ça. Si le thérapeute est stable. Il va répondre de manière stable à l'instabilité.
Oui, vous allez contenir un patient.
Contient l'instabilité.
Qui...
C'est ça qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas en thérapie quand on a des borderline en face de soi.
Les meilleurs moments de SI, on en parlait, c'est fini. On se retrouve lundi, 15h.
Pour une nouvelle émission.
Bah oui, entre 15h et 16h pour une nouvelle émission. Très bon week-end à tous, bon samedi. Tiens, les annonces Europe 1, la libre antenne, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Les auditeurs retrouvent l'écoute bienveillante de Roland Pérez du lundi au jeudi et de Valérie Darmon du vendredi au dimanche. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et partager votre expérience, vos histoires d'amour, vos histoires d'amitié, vos peines de cœur, vos aventures sentimentales, vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 dès maintenant 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, 01 80 20 39 21, la libre antenne de 22h30 à 1h tous les jours sur Europe 1, la radio libre. Dans un instant, les histoires d'amour extraordinaires avec Sophie Davant sur Europe 1.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359€ par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359€. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voire Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Vous sortez du yoga, vous avez fait le cobra, le chien tête en bas, l'aigle qui pleure, et il fait presque beau. Là, on est détendu. Trop détendu pour aller au supermarché? Alors vous commandez sur Deliveroo vos courses et produits frais, livrés chez vous en quelques minutes. Et namasté.
Tiens, c'est votre Deliveroo. Là, on est bien.
Les délais de livraison peuvent varier. Service selon disponibilité géographique et soumise à conditions. Frais applicables, voire sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Dans la vie, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, leur faire faire leurs premiers pas, les accompagner jour après jour. Tout ça pour qu'ils finissent par se jeter en boule en hurlant au milieu du supermarché.
Ou bien sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen qui fera exactement ce que vous lui demandez.
Volkswagen, enfin une décision facile à prendre.
Pendant les instants Volkswagen, le Taigo est à partir de 149€ par mois.
Taigo.
Peugeot 9 LLD 37 mois et 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 149 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tu connais un réseau de ferrerie agréé, des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien commencer l'année, la TVA est offerte jusqu'au 27 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Gros passa à Bloy.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel ?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto ?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte ?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. Yes égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Petit test avec votre Colin extra croustillant en promo.
Un test ?
Attendez. Maman, t'as fait du poisson ?
Test concluant, impossible de résister. Et du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat de deux paquets de Colin d'Alaska extra croustillant surgelé Findus, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 euros.